Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité cette semaine sera Raoul Marc Génard, un des animateurs du Non au traité constitutionnel. Alors Raoul Marc Génard est un de ceux qui sont ardents partisans du Non au traité constitutionnel, qui va par mon et par vous à travers la France pour expliciter ses choix. Alors j'ai eu enfin la possibilité de le coincer, mais c'était juste avant un meeting, ce qui va expliquer les deux ambiances sonores que vous allez entendre. D'abord une ambiance de bar, oui effectivement c'était donné rendez-vous là, et puis ensuite une salle de repos, mais juste avant le meeting avec une ambiance un peu de cathédrale. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à le coincer environ 25 minutes, et il n'y aura donc pas de pause musicale. En tout cas, la première question que je lui ai posée, c'est de savoir pourquoi dire non au traité constitutionnel.
Pourquoi voter non? Et je vais dire rapidement, il y a au moins 5 raisons de voter non. La première, c'est que ce traité auquel on donne la force d'une constitution ne répond pas aux critères de base d'une constitution. Une constitution, c'est un texte court, précis, accessible par le plus grand nombre. Ici, on a 448 articles complétés de 440 pages d'annexes qu'il faut lire si on veut interpréter valablement les articles. On a un texte qui, au contraire d'être précis, accumule les contradictions. Un article dit le contraire d'un autre. Des concepts ne sont pas définis, par exemple service économique d'intérêt général. Les traités n'ont pas été simplifiés, les institutions existantes n'ont pas été simplifiées. Et enfin, quant à son accessibilité, ce texte est tellement compliqué qu'il en devient inintelligible. Alors moi je dis, pourquoi voterait-on pour un texte qu'on appelle une constitution qui fait 448 articles, un texte confus? Pourquoi dirait-on oui à quelque chose qu'on ne comprend pas? En plus, une constitution, par vocation, ça doit rassembler. Ce qu'on nous propose, et pas seulement en France, divise et divise profondément. Pourquoi soutiendrait-on un texte qui divise profondément? Ça, c'est, disons, ma première raison qui porte plus sur la forme. Sur le fond, j'ai envie de dire, d'une part, c'est un texte à propos de l'Europe où je ne retrouve pas les fondamentaux de l'Europe. C'est en Europe que le concept de laïcité a été élaboré et mis en œuvre. Il n'y est pas. Au contraire, on a un système de reconnaissance des églises qui va permettre de les subventionner et d'autorisation de l'expression des convictions religieuses sur la place publique. C'est en Europe qu'on a arraché, et à quel prix, le principe « tous les pouvoirs émanent du peuple ». Il n'est pas énoncé dans le texte et il n'est pas davantage mis en œuvre. C'est en Europe qu'on a établi les critères de la démocratie, en vertu desquels d'ailleurs nous jugeons aujourd'hui les peuples du monde et nous décrétons qu'ils sont ou pas démocratiques. Mais les principes de la démocratie, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs et le contrôle de l'exécutif par le législatif, ne se trouvent pas dans ce texte qui, au contraire, organise la confusion des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif et laisse un conseil des ministres européens complètement à l'écart de toute capacité de contrôle, ni par les citoyens, ni par ceux qu'ils ont élus, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. C'est en Europe qu'on a élaboré les droits sociaux, les droits collectifs. Moi, je mets au défi des gens comme Jack Lang qui disent qu'il y a les droits sociaux. Je le mets au défi de me dire dans quel article on trouve le droit au logement, le droit au travail, le droit à un salaire minimum garanti, le droit à un minimum d'existence, le droit à une allocation de chômage, le droit à une pension de retraite. Ça ne s'y trouve pas. C'est en Europe qu'on a mis au point le concept de service public, basé sur la notion que cet instrument au service des pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux permet l'accomplissement des droits collectifs. Le traité constitutionnel ne parle pas de la notion de service, il ne parle pas des services publics, il ne parle que de services d'intérêt économique général qui doivent obéir aux règles de la concurrence et à la loi de la rentabilité. Et je dirais que pour terminer, c'est en Europe que on a tenté de concevoir les relations internationales, non pas sur le droit de la force, mais sur la force du droit. Et ce que le texte nous propose, c'est que la défense et la politique étrangère se fassent dans le cadre de l'OTAN. Je ferai remarquer au passage que l'OTAN n'est pas une institution européenne, qu'elle compte des États qui ne sont pas dans l'Europe et qui ont donc un droit de veto sur les pays européens. Je ferai remarquer aussi qu'on dit dans des termes très forts que l'OTAN est le lieu où se conçoit la défense de l'Europe et l'instance où on la met en œuvre. Qui est le commandant suprême des forces de l'OTAN à travers le chef d'état-major qui les dirige, le président des États-Unis. Donc on a là une Europe qui est très étrangère en fait à l'Europe dans ses fondamentaux, et j'ai envie de dire que c'est pas du tout le projet de notre génération. Une autre raison, c'est que ce traité met fin à ce qui fut le moteur de la construction européenne, c'est-à-dire l'harmonisation. C'était l'instrument par lequel on incarnait l'espérance européenne, parce que c'est quoi l'espérance européenne ? Eh bien, c'est de même standard de vie, une égalité dans les conditions d'existence, une égalité dans les chances, qu'on essayait d'améliorer par, je vais dire, une sorte de dénominateur commun le plus élevé possible. Aujourd'hui, ce traité nous annonce que désormais, l'harmonisation sociale sera fonction du marché. On est donc dans une logique où on remplace l'harmonisation par la compétition. Une quatrième raison, c'est de dire que ce n'est pas une constitution, c'est un catéchisme néolibéral. Parce que les fonctions essentielles de l'État telles qu'elles sont définies sont des fonctions uniquement et exclusivement sécuritaires. Toute harmonisation sociale ou environnementale est soumise aux lois du marché. Et enfin, l'économie de marché qu'on nous propose n'est pas l'économie de marché que nous connaissons depuis, je vais dire, la libération, c'est-à-dire une économie de marché encadrée qui permet un fort taux de protection sociale. L'économie de marché qu'on nous propose, c'est une économie de marché conforme aux accords de l'Organisation mondiale du commerce. C'est une économie de marché où la concurrence est libre et non faussée. Et enfin, dernière raison de mon rejet de ce texte, c'est parce qu'on ne pourra pas le changer. Ceux qui nous disent qu'il faut un oui de combat, acceptons ce texte et on le changera tout de suite après, nous trompent, parce que je ne comprends pas pourquoi, et je ne vois pas pourquoi des parlements et des peuples qui auraient dit oui à ce texte se déjugeraient dans les années qui suivent pour faire plaisir aux socialistes français. Enfin, à la majorité d'entre eux, officiels en tout cas. Avec des gouvernements qui ont voulu l'unanimité pour toute forme de révision sociale, de révision fiscale, de révision environnementale de ce texte, il n'y aura pas de changement. Et avec des gouvernements qui considèrent que les efforts qu'ils ont dû faire pour entrer dans l'Union européenne récemment représentent les efforts d'une génération, il n'y aura pas de changement. Ce qui veut dire que ce texte, s'il est ratifié, il va s'appliquer non seulement à nous-mêmes, mais à nos enfants et à nos petits-enfants. Et de ce point de vue-là, j'aimerais bien quand même rappeler que quand je considère que cette constitution, elle est due pour beaucoup au septuagénaire Giscard d'Estaing, que soutient le septuagénaire Chirac, et qui a reçu il y a peu le soutien des septuagénaires de la direction du Parti Socialiste, de Delors, Mauroy, Rocard. Moi, j'aime bien rappeler par rapport à ces gens-là que les hommes jeunes qui ont fait la Révolution française, qui ont fait la Constitution de la République, la première Constitution, celle de 1793, avaient eu, contrairement à ces vieillards, la sagesse de dire « une génération ne peut imposer ses lois aux générations futures ».
À Lille FM 93.1.
Tout à l'heure, vous avez dit que les services d'intérêt économique généraux étaient soumis au droit de la concurrence. Des gens de gauche qui sont partisans du traité, vous direz, mais pas du tout. Et c'est juste un glissement sémantique, un changement de mot, parce qu'il y avait une difficulté de traduction, service public, si c'est la même chose, faut pas s'énerver.
Ou bien ils se trompent, ou bien ils nous trompent, mais en tout cas c'est faux. Et j'en veux pour preuve le livre blanc de la Commission européenne, présentée en mai de l'an passé, adoptée par le Conseil des ministres en juin de l'an passé, qui dit explicitement, page 23, les termes services d'intérêt économique général et pouvoir public ne peuvent être confondus. Ce sont tout à fait deux concepts différents. Un service public, c'est un service c'est un instrument qui permet à tous et à tous d'avoir accès à un certain nombre de droits qu'on considère comme des droits fondamentaux. J'ai l'habitude de dire, pour que les habitants de la dernière maison, de la dernière rue, du dernier village, avant la forêt, la montagne, les champs ou la mer, aient aussi le courrier, aient aussi l'eau, aient aussi l'électricité, aient aussi le gaz, aient aussi l'accès à des moyens de transport. Et ça, ça a un coût que nous mutualisons dans le système des services publics. Ce qui veut dire qu'on fait intervenir de l'argent public. Mais à partir du moment où vous faites intervenir de l'argent public dans une activité de service, vous vous trouvez en collusion frontale avec la notion de concurrence qui doit être libre et non faussée. Vous établissez une contradiction entre la notion de service et la notion de rentabilité. Alors moi je pose la question, est-ce qu'une école doit être rentable? Est-ce qu'un hôpital doit être rentable? Est-ce qu'une piscine ou un théâtre doivent être rentables? On est devant un véritable choix de société. Mais ils nous trompent, ceux qui disent que service d'intérêt économique général égale service public dans le langage européen. Je viens de le dire, la Commission européenne qui est à l'origine de tous les textes européens, dit qu'on ne peut pas confondre les termes. Et elle précise d'ailleurs dans son livre blanc qu'un service d'intérêt économique général ne peut exister, un, que si le marché est défaillant, ça veut dire si l'initiative privée ne fournit pas le service ou le fournit mal, deux, pourvu que ce service d'intérêt économique général respecte les règles de la concurrence. On est aux antipodes du concept de service public.
Livre blanc, c'est quoi un livre blanc?
Alors, à la Commission, il y a trois sortes de documents que la Commission produit. Des notes, qui sont des documents d'information, je vais dire, bruts. Le livre vert, qui est un document qui fait le point sur un sujet, qui est un sujet de portée générale. Et le livre blanc, qui est un document par lequel la Commission européenne fait des propositions. On sait que dans les traités existants, et ça ne changera pas avec le traité constitutionnel s'il est ratifié, la Commission est la source unique de toute proposition. Quand elle fait une proposition qui concerne plusieurs secteurs, donc qui concerne une partie importante des activités humaines, eh bien, plutôt que de déposer une proposition de directive, elle propose d'abord ce qu'on appelle un livre blanc, qui est un document reprenant des propositions qui sont prêtes à être transformées en directives une fois que le Conseil des ministres a marqué son accord. Et donc on a un livre blanc sur les services d'intérêt économique généraux qui précise qu'on ne peut pas confondre cela avec service public.
Certains politiques de gauche en particulier disent qu'il n'y a absolument pas d'obstacle au fait de faire une politique de gauche avec cette constitution.
Oui, c'est le discours de François Hollande qui dit que ce texte n'est ni de gauche ni de droite et qu'on pourra donc faire tout ce qu'on veut. Et il prend par référence la constitution de la Ve République. Mais dans la constitution de la Ve République, on ne décrit pas un modèle économique. Dans la constitution de la Ve République, on a pu très bien nationaliser et puis privatiser parce qu'il ne se trouvait nulle part des dispositions qui répétaient 68 fois que l'Union européenne fonctionne dans le cadre d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée, ce qui correspond exactement aux objectifs des accords de l'Organisation mondiale du commerce. À partir de ce moment-là, eh bien, les nationalisations sont totalement interdites. D'ailleurs, si on prend les accords commerciaux internationaux qui sont moulés sur le modèle de l'OMC, eh bien, on va même plus loin. On considère que imposer un investisseur étranger, c'est déjà considéré comme une nationalisation ou une expropriation. Ici, avec le texte tel qu'il est proposé, les choix de politique économique ou de politique industrielle ne peuvent s'inscrire que dans un cadre très précis, qui est celui du respect des accords de l'Organisation mondiale du commerce, ou rien, ou de moins en moins en tout cas, de facteurs viennent perturber la concurrence. Ces facteurs, c'est quoi? C'est d'abord des règlements ou des lois qu'un gouvernement peut prendre pour favoriser tel type d'investissement, tel type de politique industrielle, pour se prémunir contre les investissements spéculatifs, ou bien instaurer de la fiscalité pour permettre de pratiquer des politiques sociales, ou encore imposer des contraintes en matière de santé publique, en matière de respect de l'environnement. Tout ça, ce sont des facteurs qui faussent la concurrence dans un système d'économie de marché où la concurrence est libre et non faussée. Et donc, il est totalement erroné de dire que ce texte ne va pas conditionner les politiques des États.
Il y a un petit truc que je ne comprends pas, parce que il me semble me souvenir que Chirac, récemment, dans l'entretien qu'il avait eu avec les jeunes, disait que ce traité luttait contre le néolibéralisme, hein, quelque chose dans ce goût-là. Il était assez étonnant, je me suis dit, tiens, Chirac est devenu de gauche.
Oui, mais je ne sais pas, encore une fois, je pense que ceux qui tiennent ces propos-là, et il n'est pas le seul, la direction du Parti Socialiste et la direction des Verts disent la même chose. Ils misent en fait sur le fait que beaucoup de gens n'ont pas encore lu le texte, parce que une fois qu'ils l'ont fait, ils se rendent très bien compte de quel type de société on veut. Quand on parle dans l'article 3 d'une économie sociale de marché hautement compétitive, et puis qu'après dans les 445 articles qui suivent, l'économie, elle est toujours de marché, mais elle n'est plus jamais sociale, que toutes les contraintes pour qu'elle soit une économie de marché hautement compétitive sont inscrites dans le texte, mais que les conditions pour qu'elle puisse être une économie sociale sont liées à deux choses, le respect des règles de la concurrence, et de toute façon la nécessité de décider à l'unanimité, qui est une véritable unanimité de blocage à partir du moment où on se rappelle que les pays qui ont voulu l'unanimité, ce sont des pays qui ne veulent pas davantage de social aujourd'hui et qui ont dit nous exigeons l'unanimité et que nous n'y participerons pas. À dès l'instant où ils disent cela, ça veut dire qu'il n'y aura pas de décision en matière sociale. Alors comment peut-on dire après ça que ce texte n'est pas connoté idéologiquement et qu'il ne nous construit pas, et pour des décennies, une Europe ultralibérale sur le modèle de la société américaine? Et c'est en fait ça bien le problème avec ce traité constitutionnel, c'est qu'on est devant un choix de société. Voulons-nous une société qui cultive les valeurs européennes, ou acceptons-nous de dériver vers un modèle de société du chacun pour soi, où les services, par exemple, ne seront accessibles qu'à ceux qui peuvent se les payer?
Vous écoutez Allegre FM.
93.1.
J'ai l'impression vraiment qu'il y a une espèce de spoliation de la démocratie, dans le sens où on nous demande maintenant d'avaliser une construction européenne qui s'est passée finalement pendant quasiment 50 ans, sans qu'il ne soit jamais demandé aux simples citoyens d'exprimer directement leur opinion sur la forme de cette construction européenne, sauf au moment de Maastricht, avec les manipulations médiatiques que l'on connaît tous. J'ai tort de penser cela, puisque je l'entends jamais repris en aucune façon dans les médias, ou j'ai quelques raisons de pouvoir le penser?
Mais je dirais d'abord qu'il faut aujourd'hui, en tout cas sur le dossier européen, se méfier beaucoup des médias qui manifestement ont perdu tout esprit critique et toute indépendance. Il faut reconnaître que la construction européenne, depuis le départ, depuis le traité de Rome 1957, est davantage une construction interétatique entre États, diplomatique, donc avec tous les attributs de la diplomatie, et notamment le secret, l'absence de transparence, l'éloignement par rapport aux citoyennes et aux citoyens. C'est dans ce cadre-là que la construction européenne s'est faite, et je crois que les principaux acteurs de cette construction se sont pas rendus compte qu'ils faisaient appel à des procédures qui empêchaient les citoyennes et les citoyens d'Europe d'adhérer au processus. C'est un processus qui s'est déroulé en dehors d'eux, alors que de plus en plus, il les concerne. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on franchit une étape nouvelle, c'est qu'on veut
figé dans un texte qui va requérir 25 ou aujourd'hui 20, l'accord de 25 pays dans 2 ans de 27 pays pour être modifié, alors qu'auparavant on était à 6, à 9, à 12, à 15, ce qui était infiniment plus facile. Et donc on va figer ce texte pour des générations, alors que on est en train de prendre un véritable tournant d'adopter un modèle de société qui est assez éloigné, comme je l'ai déjà dit, des fondamentaux de l'Europe. La démocratie n'y trouve évidemment pas son compte. Ce qu'on appelait dès le départ de la construction européenne un déficit démocratique est toujours entier. Quand on pense que d'abord on a une grande confusion entre le pouvoir législatif qu'est le Parlement européen, qui est tout à fait limité d'ailleurs dans ses attributions, même si le traité qu'on propose améliore un tout petit peu les attributions du Parlement, grande confusion entre le Parlement et l'exécutif. Quant à l'exécutif qui est formé par le couple Commission-Conseil des ministres, ben, a-t-on déjà réfléchi un seul instant que comme collège, ni la Commission européenne, ni le Conseil des ministres ne sont comptables de leurs choix politiques devant les citoyennes et les citoyens, et pas davantage devant ceux que nous avons élus, soit au plan national, soit au plan européen. Donc on va constitutionnaliser le déficit démocratique, ce qui veut dire que, alors qu'on prétend vouloir faire ce traité pour avoir une ossature institutionnelle beaucoup plus démocratique, on va exactement dans l'autre sens. J'ai envie de dire que par rapport au diagnostic superbe qu'avait été la déclaration de Laeken, un texte adopté en décembre 2001 par les chefs d'État et de gouvernement, qui faisait un constat très lucide sur l'invisibilité de l'Europe, son éloignement, qui demandait qu'on simplifie les textes et qu'on simplifie les institutions, eh bien on peut dire que le résultat, que le traitement qui a été apporté en conséquence de ce diagnostic aggrave la maladie plutôt qu'il la guérit.
Il y a quelque chose d'autre qui m'inquiète un petit peu. Alors c'est pas directement le traité dans le traité lui-même, mais c'est l'attitude des élites actuellement que l'on peut voir, du moins depuis que le nom finalement s'affirme. Moi j'ai entendu des personnes qui quasiment regrettaient qu'il y ait un référendum en France. J'ai entendu même un journaliste qui parlait de ce qui se passait en Allemagne dans lequel il n'y a pas de référendum. Il n'y avait pas de référendum parce qu'on savait ce que ça avait donné avant les années 40. Enfin, il y a une espèce de stigmatisation véhémente de l'opinion du peuple. Est-ce que c'est pas inquiétant et qu'est-ce qu'on peut espérer comme transformation si éventuellement le non l'emportait justement?
Mais si le non l'emporte, c'est un formidable désaveu des élites politiques et médiatiques, dont il faut bien constater que le fossé entre le peuple et ses élites n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui, en tout cas sur ce dossier-là. Les élites politiques et médiatiques qui se rangent toutes dans le camp du oui, à quelques exceptions près, il y a quand même des exceptions, servent en fait ceux qui sont les maîtres du jeu, c'est-à-dire le patronat, et donc ne peuvent pas concevoir un langage critique à l'égard d'un texte qui est celui que voulait et que veut le patronat. Il faut quand même se rappeler que quand la convention présidée par Giscard d'Estaing a commencé ses travaux, aussi bien le MEDEF que l'équivalent patronal au niveau européen qui s'appelle l'UNIS ont sorti des textes limitant, balisant ce qui pouvait se faire. Ils indiquaient très précisément ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient pas. Et quand on compare ces messages qui furent envoyés en 2002 avec le résultat, on peut constater effectivement qu'ils ont obtenu totalement satisfaction. Et donc pour tous ceux qui sont les relais, soit technocratiques, soit politiques, soit médiatiques du monde des affaires, eh bien il est normal qu'ils défendent ce texte. Le problème, c'est que les politiques le fassent, c'est leur liberté, que les journalistes qui prétendent être des journalistes, c'est-à-dire à fournir une information et à donner aux citoyennes et aux citoyens l'information la plus complète possible, là il y a un vrai problème, parce que le droit à l'information, c'est pas seulement le droit des journalistes de trouver l'information, c'est le droit des auditeurs, des lecteurs, des téléspectateurs à avoir une information complète et équilibrée.
Et
Oui, c'était des sous et des hommes en compagnie de Raoul-Marc Génard. Je tiens à signaler que ça a été un des premiers, sinon le premier, à parler de la directive Bolkestein. D'ailleurs, vous pouvez trouver une émission que j'ai faite avec lui à ce propos sur le site www.dessousetdeshommes.org. Vous pouvez aussi trouver tout ce qu'a écrit Raoul-Marc Génard sur son propre site qui est www.urfig.fr ou .org. Il faudra vérifier en tous les cas Urfig, U-R-F-I-G. La semaine prochaine et jusqu'au référendum, nous continuerons une série d'émissions pour le non. Pourquoi pour le non? Parce que sur les autres radios, vous pouvez entendre tout ce que vous voulez sur le oui. Et par contre, je ne peux pas pour l'instant encore vous dire qui viendra. Voilà, en tous les cas, à la semaine prochaine.